très vite dit, maintenant qu'on sait que Jacques est catholique, quand il se prononce sur la cathédrale depuis 1870, ça fut la peine de convoquer un concile. Puisqu'on sait que le pape est infaillible, alors. Et il convoque un concile. C'était une très grande amitié. Il avait compris, car il était, je crois, en faveur d'un, au moins d'une bonne dose de modernisme, il avait compris qu'il n'aurait pas le pouvoir. Aucun chef d'État, si son entourage bloque, ne peut rien faire. Les chefs d'État sont complètement ligotés. Il faut que leur volonté et leur relais. Il avait compris que la curie autour de lui, si lui seul essayait de donner l'impulsion du changement, bloquerait tout. Mais que s'il y avait un concile, avec des représentants de toutes les églises, tout le monde entier, avec des pays où les choses étaient plus ouvertes et progressistes, alors là, il réussirait à forcer la main, en quelque sorte, à la curie autour de lui. Et ceci s'est passé, second concile du Vatican. Manifestement, là, l'ambiance a complètement changé. Il y a eu une rectification de cap, sinon un demi-tour, par rapport au catholicisme dominant des décennies précédentes, en tout cas quant à la politique pontificale. Et on peut dire que c'est ce catholicisme rénovateur, disons, qui s'est élaboré dans le respect du pays critique, retour à une vision plus mystique et vitaliste du ministère de l'Église, qui a prévalu au concile. Alors, évidemment, on fait en sorte que ça ne paraisse pas déjà peu de la tradition de Vatican II, mais c'était manifestement un changement d'esprit que Jean XXIII avait appelé aggiornamento, une mise à jour de l'Église qui paraissait sclérosée dans un état périmé. Alors c'était à 12, encore modéré, mais dans la suite des années 60, à la fin du concile, après le dégel, ça a été la débâcle. On est venu à des formes de modernisme, alors très ouvertes et extrêmes, fin 60 et début des années 70. Je crois que Maritain a pu dire que le modernisme du début du siècle, à côté de ça, se fait comme ça, par une des fois. C'est parce que l'une des fois, pour en parler si légèrement, mais enfin, c'est vrai que c'était des formes de modernisme. La revue dominicaine Lumière et Vie, que j'ai mentionnée hier, a évolué en 2-3 ans une position thomiste assez classique, vers des positions chrétiennes marxistes, à la limite de la vie, c'est incroyable. Quelques années, on a vu de ce bouleversement à cette époque. Paul VI présidait à tout cela, tourmenté, ravagé, sans réussir à vraiment contenir le mouvement. Et puis alors est arrivé Jean-Paul II, le pape Benoît III, et il a repris les choses en main avec une extrême habileté. Ce qui veut dire que ce mouvement auquel on a assisté, il est maintenant freiné, probablement il y a eu un recentrage dans les années 80. Se servant de sa notoriété publique, de sa grande audience, des foules modernes, Jean-Paul II, je crois que là, sa politique reprend son autorité sur son clergé, ses clercs avec Ratzinger comme son théologien de remise en ordre. Alors, le cardinal Ratzinger, qui est un théologien allemand, plus se fait montrer qu'à l'époque du Concile, on dit droit, c'est ouvert, un progressisme prudent, qui irait dans la même zone que celle qu'on pourrait situer à Fondard, mais qui s'est alarmé devant le glissement vers un modernisme plus virulent, et qui est devenu l'homme du tournevis, de la reprise en main, en particulier à l'égard de la théologie de la libération, théologie donc affectée jusqu'à un certain point par l'alliance avec le marxisme, partie d'Amérique du Sud, mais avec l'Amérique latine, mais avec un assez grand rayonnement dans le monde entier, et en particulier parmi les clercs du clergé français. Voilà donc un schéma du parapluie. Bon, nous avons dépassé l'heure, excusez-moi, mais voilà. La critique du christianisme que nous avons étudié peut justifier, au moins s'excuser, si l'on considère que le type catholique que le premier à cet état-là, et que les autres correspondent en partie au moins à des réactions par rapport à lui. Ça a donc permis d'abréger davantage à propos du type évangélique et du type libéral moderniste. Mais avant d'en venir à ces deux nouvelles formes de théologie chrétienne, il faut, à la suite de l'exposé d'avant-hier, commenter brièvement les traits saillants du type catholique. Je n'ai pas eu le temps de le faire mercredi. Que les mots que vous avez sur le canevas de la société vous soient au moins clairs. Pour étudier le type catholique de théologie, je commence par appeler le rôle du responsable. La méthodologie et les principes de base mis en œuvre dans le type catholique. L'écriture est reconnue comme révélation divine. Tous les textes officiels, et il y en a plusieurs, ce sont les plus détaillés, ceux du premier concile du Vatican et les papes qui se sont prononcés dans les décennies suivantes. L'encyclique de la Beneficimus Deus, volume 13 en particulier. Tous ces textes définissent l'écriture comme parole de Dieu même, inspirée de manière plénière par Dieu lui-même, de telle sorte qu'elle est infaillible dans tout ce qu'elle énonce. Ces textes officiels professent, j'anticipe encore de l'exposé, une doctrine de la nature de l'écriture et de ses caractères semblables à celle du protestantisme évangélique. Il faut ajouter deux choses pour compléter le tableau. La première, c'est que la déclaration du deuxième concile du Vatican est plus floue. En principe, les déclarations du premier concile du Vatican, de 1870, demeure tout à fait irréformable, infailliblement autorisé dans l'Église. Et Vatican II, donc, n'a rien remis en cause explicitement. Mais la phrase retenue dans les documents de Vatican II, sur la révélation, est une phrase ambiguë, qui affirme que ces documents d'écriture, etc., renferment, et de manière donc entièrement vraie, une foi, si on veut, cette vérité salutaire que le Seigneur a voulu nous y communiquer. Alors, cette phrase est ambiguë parce que vous pouvez la comprendre. Dans le sens de l'orthodoxie antérieure, ça veut dire que toute la vie est la vérité salutaire de Dieu, etc., ou vous pouvez la comprendre d'une façon qui distingue entre la Bible et puis ce contenu de vérité salutaire que Dieu a voulu y traiter. C'est la première réserve qu'on peut faire en ajoutant que beaucoup de théologiens catholiques, depuis la Deuxième Guerre mondiale, en gros, ne semblent plus respecter les définitions de l'Écriture sainte, qui sont pourtant celles du type catholique traditionnel, théoriquement en vigueur toujours, ces définitions de Vatican I en particulier. La deuxième précision, officiellement, c'est qu'il faut donner à ce que je viens de dire sur le statut de l'écriture, elle est multiple. D'abord, il faut rappeler que sur les limites du canon, il y a une différence entre le protestantisme évangélique, le protestantisme en général, et puis l'Église catholique. L'écriture, mais pour les catholiques, il y a un certain nombre de livres que les protestants appellent apocryphes, qui s'ajoutent au canon juif palestinien. Il les appelle couramment deutérocanoniques, et bien sûr cela correspond à une différence. Le référent, l'écriture est la parole de Dieu, etc., n'est pas tout à fait le même, puisqu'il y a un certain nombre de livres qui se trouve ajouté par le catholicisme. Un des tout premiers numéros de Fac Réflexion contient un article développé sur ces livres apocryphes dits de théro-canonique par les catholiques. Alors si ça vous intéresse, vous pouvez lire cet article relativement détaillé. Mais là, le plus important, c'est quand même pas là. Le plus important, c'est que cette écriture, auquel on attribue à peu près le même statut que dans la tradition évangélique, ne fonctionne pas comme une autorité exclusive. Et en pratique, suprême. La controverse est un formateur, c'est aussi sur le deuxième exposé, mais c'est inévitable, avec les catholiques, n'a pas concerné la nature de l'écriture sainte, c'est d'accord, mais le rôle de la tradition et du magistère, c'est-à-dire de l'autorité hiérarchique culmine dans la personne du pape quant à l'interprétation de l'écriture. Les protestants ont dit l'écriture seule, l'écriture instance critique à l'égard de l'Église et de tous ses docteurs, de toutes les opinions qui se sont formées au cours des siècles, et même des conciles. Alors que les catholiques ont dit l'écriture et la tradition. L'écriture, oui, mais interprétée selon la tradition. Je me rappelle, de la polémique, peut-être d'un autre âge à certains égards, comment Adolphe Monod, ce grand prédicateur du milieu du XIXe siècle, disait aux catholiques, oui, vous prétendez avoir plus, vous dites l'écriture et la tradition, mais c'est comme si on disait Notre-Dame et un canon qui tire dessus. Les protestants reprochaient au catholicisme d'ajouter une instance qui était restrictive en pratique de l'autorité scripturaire officiellement professée, officiellement reconnue. De même que Jésus, en Matthieu 15, reproche aux pharisiens, il y a une similitude de structure là, reproche aux pharisiens d'annuler l'autorité de la parole de Dieu au profit de leur tradition, parce qu'ils surimposent leur tradition. Et les pharisiens aussi accordaient à l'écriture exactement le même statut que Jésus. Il n'y a pas de polémique sur la nature de parole de Dieu et son autorité. Jésus s'appuie sur un consensus avec eux à ce propos. Mais Jésus attaque en disant qu'en pratique, en ajoutant la tradition, il prive l'écriture de son autorité. C'est ce que les réformateurs ont fait valoir face à la disposition catholique des choses. La tradition est associée à l'écriture de telle sorte que pour savoir le vrai sens de l'écriture, il faut recourir à la tradition et que l'écriture ne peut plus jouer à l'égard de la tradition de rôle véritablement critique. C'est là la différence principale, et donc si nous caractérisons les types théologiques, on peut dire que c'est l'association de l'écriture et de la tradition qui caractérise la façon de faire de la théologie du type catholique. Mais il faut que je raffine encore un peu les choses, et cela étant bien compris, je crois que vous le saisissez sans mal. Première chose, c'est l'étendue de la tradition. On dit la tradition, oui, mais il y a une multitude de pères de l'Église, de docteurs des siècles qui ont suivi, ils n'ont pas été tous d'accord sur tous les points. Alors, au bout du compte, et c'est pourquoi il vaut mieux souligner encore le rôle du magistère que de la tradition, au bout du compte, ce sont les hiérarques du catholicisme et suprêmement le pape qui décident de ce qui est la tradition. À suivre. Dans la tradition, il y a des traditions déviantes. Ils le savent bien. Alors qui dira quelle est la vraie tradition de l'Église? Celle qu'il faut associer à l'Écriture, pour bien entendre l'Écriture, sans quoi on tombe automatiquement dans l'hérésie. C'est le pape seul qui finalement nous le dira, le pape. Considéré comme la pointe de la pyramide, de l'office magistériel, l'Église dite enseignante. L'Église enseignante, l'Église enseignée. Je veux dire qu'au bout du compte, c'est le magistère qui compte. Le magistère qui a l'autorité déterminante en dernière instance. C'est la remarque, je crois, la deuxième remarque, c'est que la théologie catholique garde malgré tout le souvenir que l'Écriture est une catégorie plus élevée que même l'autorité du magistère. Encore, je dirais, cette reconnaissance qui subsiste. Le pape, quand il prononce ex cathedra, il fait ça rarement, je considère qu'il ne l'a fait qu'une fois depuis que le Concile de Vatican I lui a attribué vraiment la crédibilité. Avec des faits rétroactifs, c'était la reconnaissance de ce qui est censément une vérité divine, ce que le pape est appelé quand il prononce de sa chair de pasteur universel des chrétiens. On considère qu'il, aujourd'hui, couramment, qu'il ne l'a fait qu'une seule fois, en 1950, quand il a promulgué comme dogme l'Assomption de la Vierge Marie. C'est très rarement qu'il le fait. Mais donc, même quand il se prononce infailliblement de cette façon, qu'il émet son verdict cardinal, son infaillibilité n'est pas tout à fait au rang de l'infaillibilité biblique. Après, c'est la théologie catholique elle-même. C'est intéressant à savoir. Il est infaillible quand il prononce sur la foi et les mœurs. Alors que l'Écriture est infaillible à tous égards, quel que soit le champ dans lequel son affirmation se situe. Parce que l'Écriture est la parole de Dieu, et Dieu ne se trompe en aucun domaine, alors que le pape n'est pas en principe organe de révélation, il remplit un service d'interprétation de l'Écriture. Il a reçu l'assistance du Saint-Esprit, non, avec le péché, pour dire quel est le sens véritable des textes. Et pour la foi, mais donc il n'est pas un apôtre. Il n'est pas un organe premier de communication de la révélation divine, et c'est pourquoi le champ de son infaillibilité est restreint. La foi et les mœurs. On peut ajouter à cela, à ce branche de ce que je vous explique, qui est souvent peu connu des protestants, c'est pourquoi je prends le temps de vous le dire, on peut rajouter à cela que l'accent ces dernières décennies, je crois qu'on peut dire que c'est vraiment l'accent dominant aujourd'hui, est précisément sur le rôle interprétatif de la tradition. La tradition est là pour garder et expliquer et expliciter le donné révélé des mots apostoliques. Et on a presque gommé, pas tout à fait peut-être, ça dépend quand même des théologiens, un ancien thème apologétique qui rattachait la tradition à l'idée que les apôtres avaient aussi laissé des instructions orales, que tout n'était pas dans le Nouveau Testament, et qu'ainsi, il était légitime d'ajouter d'autres sources d'informations à ce que l'Écriture elle-même contient. Cette thèse-là, qui a été assez longtemps, la thèse des catholiques, que les protestants ont combattu, en disant que ça ne tient pas, la tradition orale était complètement pervertie, personne ne peut assurer là la continuité, cette thèse-là n'est plus guère défendue avec vigueur, c'est au titre de l'interprétation des Écritures que la tradition est plutôt invoquée. Et dans le contexte plus vitaliste de ces dernières décennies, je vous ai expliqué que le virage, c'est une séance romantisme, les organismes glorifiés, on soulignera que la tradition, ce n'est pas seulement un certain nombre de textes. C'est toute la vie de l'Église, avec sa liturgie, avec l'expérience mystique. C'est tout cela qui est le contexte dans lequel il faut lire l'Écriture pour bien entendre. Et sous la conduite, donc, des pasteurs, plus marqueux, d'études d'un charisme d'infaillibilité, s'ils sont tout à fait au sommet par l'ex-cathédrale. Vous voyez quel est le schéma et quels sont les critères. Tout cela joue de manière assez souple. Et il est typique de la mentalité catholique d'avoir toute une échelle. Il y a des vérités de foi. Ces dogmes qui ont été définis par les conciles, par les papes. Alors, si on les rejette, on s'excommunie automatiquement, ce qui est deux fois. Mais après ça, vous avez ce qui est proche de la foi. Vous avez des opinions pieuses, qui ne sont même pas proches de la foi nécessairement, mais qui seraient quand même imprudents de négliger. Et vous avez tout un dégradé, jusqu'à des opinions qui sont des opinions qu'on considère comme dangereuses, qu'il ne faudra pas enseigner. Mais on n'est pas forcément hérétique à les finir. Tout ce dégradé qui est tout à fait caractéristique. On parle des notes de certitude données aux différentes opinions, à partir donc de certaines notes maximales, des vérités de foi qui ont été définies par l'autorité enseignante de l'Église. Interpréter cela chez les modernes. L'idée qu'il faut encore interpréter ce que l'on reçoit comme vérité de foi a été dit dans le langage d'une situation antérieure, je vous ai expliqué ça le premier jour, dans une situation à bien des égards, se sont figés avec l'esprit des Lumières dans le grand progrès et le catholicisme se révissant contre lui. Le 19e, alors je pense que là, il y a eu deux grands faits. Je mentionne d'abord, comme le plus apparent en tout cas, le raidissement réactionnaire. L'Église catholique en Europe occidentale a subi comme un traumatisme terrifiant, la Révolution française avec ce suite, et Napoléon pensait au traitement du pape. Imaginez le pape obligé d'en passer par les volontés de ce italiste, ce corse, qui il y a même quelques années lui s'apprend le pouvoir sur l'Europe entière. Quelque chose d'inimaginable, au monde de l'époque. Romantisme, une brutalité extrême. Alors quand, pouf, on a renfermé le horrible parenthèse de la Révolution française et de l'Empire. C'est un moment de réaction, intellectuelle, violente, et un résistement très très grand du catholicisme contre la modernité. L'esprit moderne s'est exprimé à la Révolution. Vous avez au milieu du siècle le fameux syllabus, c'est-à-dire un catalogue qui parle de toutes les erreurs modernes que le catholique devait répudier. Syllabus, démocratie, idées de liberté de conscience, tout ça, des choses absolument attaquées. Donc un raidissement réactionnaire très fort. Mais d'autre part, signaler aussi, quelques efforts sont peut-être moins éloignés de ce raidissement, en fait, comme je crois, mais je n'ai pas tenté de vous l'expliquer, quelques efforts pour trouver autre chose. Et ne pas se contenter d'un catholicisme du Concile de Trente, sclérosé, qu'on maintient, contre toute nouveauté. Ça, c'était le visage dominant, l'accent sur le pouvoir de l'Église, de l'Église, etc. Mais aussi quelques efforts pour ne pas tomber de ce côté-là. Alors, des efforts qui n'ont guère été remarqués à l'époque, mais qui étaient en quelque sorte gros de promesses pour l'avenir de l'Église catholique. Sous l'influence d'un certain romantisme, l'idée de développement et de thème vital sont devenus, pour quelques-uns, des thèmes à privilégier. que la polémique catholique contre les protestants avait été les protestants Ivan Bossuet, les variations protestantes, qui n'ont pas gardé le dépôt apostolique. Nous avons gardé les traditions ininterrompues, nous sommes les seuls fidèles à l'origine. Alors que la polémique catholique contre les protestants, l'apologétique catholique en général, avait été une apologie de la fixité immuable de l'Église, toujours semblable à elle-même. Certains, influencés par les romantiques de devenir, ont commencé à valoriser, ont dit mais non, c'est comme un organisme qui vit et qui change que l'Église est supérieure. Alors vous avez un certain Müller, à Tübingen, en Allemagne, et surtout le cardinal Newman, Müller aussi important, le cardinal John Henry Newman, anglicans devenus catholiques, qui ont introduit cette nouvelle vision. Au lieu de voir l'Église d'abord comme une structure juridique immuable, la voir comme un organisme vivant qui change, qui évolue, et qui montre justement en son évolution, l'évolution du dogme, sa vie. C'était la préparation d'une apologie juste inversée par rapport à la précédente. Les protestants, ils sont sclérosés, ils ne bougent pas. Alors que l'Église véritable, l'Église est un organisme vivant. Et les semences déposées en elle dans le Nouveau Testament et qu'on voit à peine dedans ont germé tout au fil des siècles. Donc ça, c'était l'introduction nouvelle. À la fin du siècle, au début du 20e, une crise très très dure à secouer les micromètres. La première crise moderniste. Donc, l'establishment, la hiérarchie, le pouvoir juridique qui s'était acquis, avait parlé contre la modernité. Mais enfin, les catholiques utilisent dans le monde moderne, eux aussi. Et l'idée de la modernité, le courant philosophique typique de l'humanisme, avait quand même touché un certain nombre d'intellectuels catholiques. Et à la fin du 19e siècle, il y en a un certain nombre qui se sont mis à pratiquer la critique biblique, à accepter en philosophie des thèmes plus ou moins romantiques et vaporeux, à donner dans le sens du subjectivisme moderne. C'est ce qu'on a appelé le modernisme. En matière de critique biblique, un des plus fameux a été, souligné, c'est Loisy. Et toi, Loisy. Bon, c'est l'homme qui a dit que Jésus avait annoncé le royaume de Dieu, c'est l'église qui a dit que Jésus s'est trompé. C'est habituel chez les critiques libéraux du Nouveau Testament, donc Loisy l'a développé côté catholique. Et alors, il y a eu des réactions, c'est une crise extrêmement grave. Mais il y avait des appuis très hauts. Loisy a été couvert pendant des années dans tout au long de cette crise par l'archevêque d'Albi, qui est un siège épiscopal assez important en France. Les modernistes avaient pas mal de sympathie dans la tâche. Et le combat a été extrêmement dur. Au début du siècle, les papes ont décidé de mettre tout leur pouvoir dans la lutte contre le modernisme et l'écrasement du modernisme. Alors ils ont pratiqué cette politique avec une certaine efficacité. Mais une efficacité quand même plus policière, pourrait-on dire, que plus spirituelle. Les modernistes, souvent, se sont simplement écrasés, comme on dit. Ils ne pas voulu les écraser, mais ils se sont écrasés, au sens familier de l'expression. Ils ne pouvaient plus exprimer ce qu'ils avaient à dire. Ils n'en pensaient pas mal. Les officiels étaient la vérité de l'orthodoxie catholique, immuable. Mais le virus moderniste, toujours dans la place, quand même. Pas certain pas qu'en tout cas, Léon XIII avait saisi qu'il ne fallait pas se contenter de cette répression institutionnelle, il fallait aussi donner un aliment intellectuel de qualité pour contrer le modernisme. Et il a appelé, à la fin du 19e siècle, au retour à Saint Thomas d'Aquin. Donc là, c'est vraiment quelque chose. seulement le docteur Sévéré, seulement en pratique, c'était le catéchisme délivré du comique qu'on enseignait, c'était des commentateurs, et qu'il a demandé qu'on retourne à Saint Thomas d'Aquin lui-même, pour saisir toute la fraîcheur de l'œuvre de Saint Thomas, au moment où il l'avait produite. Et cela a effectivement eu son fruit au début du XXe siècle, et surtout entre les deux guerres, un mouvement néo-thomiste a eu grand succès, s'est développé sur la base de ces recherches nouvelles sur Saint Thomas, très grand mouvement avec Jacques Maritain, que j'ai mentionné tout à l'heure, comme un philosophe laïque, français, comme numéro un de l'époque, café laïque. Mais en même temps, ce retour à Saint Thomas a donné l'occasion des naissances de retour aux sources, de ressourcement. Et dans les années 30, pas contenté de retourner à Saint Thomas, c'était déjà retourné vers une forme de catholicisme plus souple que ce qu'était devenu après le Concile de Trente, et surtout au XVIIe et XVIIIe siècle, le catholicisme. Il a commencé à redécouvrir le sens mystique, même de Saint Thomas d'Aquin. Alors on est revenu au-delà de Saint Thomas d'Aquin, à d'autres scolastiques, et puis au Père de l'Église, où les choses sont moins claires, signifiées Origène, et aussi à la Bible, et puis en utilisant quand même, d'abord prudemment, les instruments de la critique développée par les protestants libéraux. Alors les choses ont commencé, vous voyez, à glisser quelque peu. La Deuxième Guerre mondiale a eu lieu, et après la Deuxième Guerre mondiale, alors, ça a commencé à se développer. C'était le dégel, si vous voulez. On a parlé de renouveau biblique, il y a eu un chamboulement dans l'opposition philosophique, les catholiques se sont intéressés aux protestants, certains penseurs protestants, pas fait depuis longtemps. Une remise en cause des prêtres ouvriers, la mission de France, en France en particulier, parce que le vieux catholicisme de la hiérarchie s'était discrédité par son alliance avec le régime de Vichy. Alors à la Libération, le MRP, les pouvoirs des catholiques sociaux ouverts au monde, démocrates, sans bouleversement. Le pape a eu peur que ça lui échappe. Il y a eu en 1950 une tentative de coup d'arrêt avec l'encyclique Humanis Generis et la promulgation du dogme de l'Assomption. Et des gens comme Congar ont été inquiétés, bridés, etc. pendant ce temps-là. Et ça a duré une situation de tension. Au plan biblique, la Bible de Jérusalem a paru qui montrait que la critique ordinaire des protestants était admise. Mais le pape et la curie tenaient encore des choses assez bien en main. Le pape qui nous est mort, on a élu un pape, on a dit un pape de transition, c'était un gars qui avait l'air d'un paysan comme Matois, qui avait fait sa carrière comme diplomate, qui venait jouer au boule à 200 mètres d'ici, à Feston. Il dort peut-être dans son lit. Il couché dans la villa et le lit dans lequel je dors était dans l'une des chambres. Il a pris un nom qui montre bien son humour, d'emblée, Jean 23. D'abord il s'appelait Jean, alors tous les bons chasseurs, ils n'osaient plus sortir de la série Les Filles, au lieu de Pitrel, Jean. Jean 23, or il y avait eu un autre pape au moment de la dispute au Moyen-Âge entre plusieurs papes, il y avait eu un Jean 23 déjà. C'est ça, ruse. Jean 23. Et puis, stupéfaction, il convoque un concile. Un concile ecuménique.
Interpréter les textes bibliques. Je crois qu'il y a pas mal de théologiens catholiques qui sont prêts à dire que si on s'en tient à une exégèse philologique, littéraire, historique, des passages du Nouveau Testament, effectivement, la doctrine catholique de la messe est difficile à prouver. J'ai invité une fois par l'association des professeurs d'écriture sainte des grands séminaires de tout l'ouest de la France, presque la moitié de la France, c'est pas mal, puisque c'est une région assez calme. Un week-end, pour que je expose conception évangélique, ma conception évangélique en tout cas, des sacrements. Très intéressant. Dans un couvent près de Nantes, au milieu de Nantes, et j'ai reconnu que là, partout, on pouvait lire, on peut bien lire les données du Nouveau Testament comme vous le faites. Que dans le Nouveau Testament même, il n'y aurait guère de données qui puissent élever en objection contre la synthèse que je proposais. Ça paraît incompatible avec ce que je suggérais. Mais de manière générale, la thèse catholique, c'est justement, il n'y a pas que les textes qu'il faut lire. Ces textes, qui sont si souvent tirés d'écrits de circonstances, il faut les lire dans le contexte de toute la vie de l'Église. Et ces textes ne sont bien compris que si on a vécu l'Eucharistie dans l'Église, s'inscrivant dans toute la grande tradition, aussi bien des gestes, des expériences de piété liées à l'Eucharistie. Et à ce moment-là, alors, que ce que je proposais. Mais ça n'empêche pas. C'est là que la souplesse joue, vous avez des possibilités d'interprétation très diverses, que certains disent la transsubstantiation, la thèse dans laquelle la substance du corps et du sang de Jésus-Christ se trouve, sans que la France soit changée, sans que les accidents soient modifiés, la substance de Jésus-Christ se trouve maintenant sous l'apparence du peuple et du peuple. Aussi l'Eucharistie, ça n'empêche que cette thèse peut être interprétée d'une manière assez libre. La notre catégorie de substance est une catégorie aristotélicienne, qui correspond à la philosophie du Moyen-Âge, qui distingue entre substance et accident. Mais c'est là une philosophie qui, pour nous, est tout à fait dépassée, périmée. Nous sommes au siècle de Heidegger et de la phénoménologie. Pour nous, cette pensée substantialiste, elle est tout à fait désuète. Donc nous avons le droit de reprendre ces vieilles formules en les interprétant autrement, en usant d'un autre outil philosophique, simplement. Et nous honorerons la même intention fondamentale, le sens de l'Église, dans cette affaire. Qu'est pour nous la substance d'une chose? Qu'est-ce qui fait que... qu'est-ce qui est le noyau, en quelque sorte, d'une chose? Mais c'est son rapport à nous. Notre philosophie à nous n'est pas substantialiste, mais plutôt relationniste, sinon relativiste. Ce qui est pour nous l'essentiel de l'objet, c'est ce qu'il est pour nous, rapport à nous, son sens, si vous préférez, son sens ou sa signification. Bon, eh bien, on pourra interpréter, c'est ce que les théologiens catholiques ont proposé, la transsubstantiation comme transsignification. Le pain qui est là, il a changé de sens. Nous ne prenons plus, pour nous nourrir comme nous prenons du pain ordinaire, ce n'est plus du pain ordinaire pour nous. Si nous le prenons dans le rite ecclésial, c'est qu'il a pour nous changé radicalement de sens, et donc de fonction. Et ce qui s'exprimait donc dans une philosophie de type artificiel par le mot de transsubstantiation, nous pouvons l'interpréter peut-être pour nous, en disant transsignification. Alors là, le pape a dit non. Ah non, ça s'est allé beaucoup trop loin. Il n'est pas bien comme ça de temps en temps. Il y a eu une encyclique de Paul VI pour dire non. Non. Ces recherches trop barbies, trop spéculatives, qui entraînaient trop d'un côté protestant. Mais ils avaient cru pouvoir aller jusque-là. Et les théologiens catholiques, ils avaient comme ça. Tout du compte, quand on rencontre pratiquement dans toute discussion qui se prolonge, c'est cette conséquence précise du sola scriptura et de l'affirmation de l'autorité de parole de Dieu qui appartient à l'Écriture, qui est l'inhérence. Terme assez technique, le dictionnaire ne le comporte pas en français parce que c'est déjà une langue assez technique. L'inhérence, c'est
L'un des aspects au moins de l'infaillibilité, comme on disait davantage autrefois, comme certains ont utilisé le terme infaillibilité de manière un peu vague, oui, on va nous faire défaut, mais il peut y avoir des erreurs aussi et là. Alors, le terme d'inhérence plus précis pour exclure de tels échappatoires a été mis en circulation, chez les catholiques aussi. Il signifie il n'y a pas d'erreur quant à la vérité des affirmations dans les Écritures. Alors, il y a bien sûr des copistes qui ont pu faire des erreurs de transcription, comme on l'a dit. Il peut y avoir éventuellement des erreurs de grammaire. Qu'est-ce qu'une erreur de grammaire? C'est un écart par rapport à une convention humaine. Alors, bien sûr, il faut se faire comprendre, mais l'inspiration divine implique que les auteurs se sont exprimés d'une manière qui assurait tout lecteur intelligent, informé de la langue, une compréhension juste. Mais rien n'empêche que l'inspiration divine laisse passer une faute de grammaire. C'est là. Une orthographe aussi, c'est encore plus conventionnel et variable. Dans l'histoire d'une langue, en un sens, on peut dire que l'orthographe, à moins que le mot ne soit défiguré, qu'on le prenne pour un autre, que l'orthographe est purement accidentelle du point de vue linguistique, proprement linguistique. Alors, lorsqu'on dit inhérence, pas d'erreur, on ne parle pas de cette erreur de grammaire éventuelle, comme il y en a par exemple toute une masse. Bon, je crois que c'est même volontaire dans l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est des erreurs, grammaire grecque. Je crois que c'est exprès. Parce que, dans le genre, c'est très bien. Comme dans une comédie. Je crois que ça appartient au genre apocalyptique qu'il a voulu adopter à ce moment. Bon. Ça comporte un message. Ça comporte un message aussi, oui. Je pense que ça veut induire une certaine attitude dans chez le professeur. Mais, cela dit, comme parenthèse, donc, lorsqu'on affirme l'inhérence, on affirme simplement qu'il n'y a pas d'erreur quant à la vérité des affirmations. Si on croit ce que l'auteur dit, on ne se trompe pas. Mais ça n'exclut pas non plus des façons de parler communes, des nombres ronds, des métaphores, etc. Selon l'utilité du langage naturel. L'inhérence est à la fois un concept précis et indispensable à mes yeux à la juste doctrine de l'Écriture, et finalement quelque chose qu'il faut interpréter avec souplesse quand on étudie l'Écriture, sans blocage et frustration, et de la foi. Alors, j'ai dit que cela paraissait le point névralgique. Je crois vraiment que mon expérience le vérifie de toute discussion que j'ai pu avoir. C'est aussi ce que dit le grand critique de la théologie évangélique, celui qui nous a attaqué avec une virulence ces dernières années, professeur d'Oxford de James Barr. Je crois que j'ai mentionné son nom déjà un autre jour, me semble-t-il. On dit au fond, c'est l'ignorance. Et je crois qu'il y a raison. Dès qu'on abandonne l'ignorance, dès qu'on dit qu'il peut y avoir une erreur, qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'en principe, on peut contester tout ce qu'on va trouver dans la Bible. Le critère pour retenir dans la Bible ce qu'on retiendra ne viendra pas de la Bible elle-même. On se référera à autre chose pour dire cela c'est une erreur, cela ce n'est pas une erreur dans la Bible. Donc c'est vraiment une décision méthodologique capitale. Si vous refusez dire il n'y a pas d'erreur dans la Bible, vous vous donnez ipso facto le droit de crier à l'intérieur de la Bible, et ipso facto aussi, vous impliquez une autre autorité que la Bible qui sera supérieure à la sienne. Il faudra bien un critère pour faire un tri. Oui,
madame.
Oui, aucune erreur historique.
C'est des faits qui sont là.
Oui, ça fait partie de l'affirmation de l'inhérence. C'est tout spécialement à
troisième type, là, on voit que ce sera possible, c'est avant que les évangéliques, étant d'une cause perdue, soutiennent des choses intenables. Donc, il est évident qu'il y a des erreurs qui sont faites. Alors, bon, oui, la Bible, l'identité, la vie, etc., mais ils refuseront de dire qu'elle est toute sans erreur. Et du coup, ils seront bien obligés de se référer à mon problème. C'est inévitable. On peut retenir beaucoup de la Bible en y
comme vous le faites, ce n'est pas sortir de l'inhérence. Et attention
à la manière dont on applique les principes tout à fait justes, comme celui que vous venez de décrire. À coup sûr, il s'agit de bien comprendre ce que le texte veut dire, ce qu'il affirme réellement. J'ai bien dit, sans erreur, dans aucune de ses affirmations. Mais si c'est un texte poétique qui ne veut pas affirmer, qui veut utiliser une métaphore, si on peut le déterminer à partir de l'étude de son genre littéraire, alors on fait une erreur si on lui impute une affirmation historique, et bien, en réalité, ce n'est pas l'intention de l'auteur. Donc, si vous déterminez que le genre n'est pas historique, en l'occurrence particulière, donc, vous ne sortez pas du tout d'inhérence en disant que ce n'est pas arrivé. Puisque le texte n'affirme pas que c'est arrivé, si on le texte bien compris, en fonction de son genre littéraire. Mais je dis attention à l'usage de ce principe, car il a été utilisé, ce principe sain en lui-même, je crois bien souvent, comme une échappatoire. J'avais peur de dire une erreur, et alors, je ne croyais pas vraiment, on a prétendu que c'était le genre littéraire. Le genre littéraire a eu bon dos, bien souvent. Donc, il faut une très grande intégrité, une très grande compétence. Les principes dans la détermination des genres et de l'effet que la détermination du genre peut avoir sur une des gestes, extrêmement rigoureux, pas facile, et très prudent, mais disons que le principe en lui-même est tout à fait compatible avec l'affirmation de l'inhérence. Alors, en ce qui concerne le problème du canon et de l'interprétation, nous en avons parlé de l'interprétation surtout l'an dernier, je ne prolonge pas. Les normes normées, je crois que cela requiert un mot d'explication supplémentaire. C'est une difficulté interne, à mon avis, de la position évangélique. C'est une formule classique, traditionnelle, en tout cas dès le XVIIe siècle, on l'a employée. Il y a deux sortes de normes pour la foi dans l'Église. Il y a la norme souveraine, norme normante, pas normande, mais normante, qui est l'Écriture. Mais il y a aussi une norme subordonnée à laquelle il faut bien se soumettre, si on est par exemple pasteur dans une Église et qu'on enseigne dans cette Église, c'est la confession de foi. La confession de foi n'est pas interdite. C'est une norme normée par la parole de Dieu. Et en principe, elle est réformable par la parole de Dieu, par les Écritures. Mais tant que c'est la confession de foi, dans cette Église, il faut se soumettre. Tout le monde n'est pas honnête. Et il faut bien pour travailler ensemble dans une église, d'avoir une confession de foi. Bon, la plupart des chrétiens évangéliques, en tout cas, ont pensé de cette façon. L'expérience les a conduits dans ce sens. Pratiquement, ça pose un réel problème. Il est très rare que les confessions de foi soient réformées massivement par la parole de Dieu une fois qu'elles ont été établies. Et les normes normées tendent à prendre finalement aussi le statut, jouer le rôle des normes, de la norme normande. C'est difficile à gérer pour des raisons psychosociologiques sans doute, présenteur des institutions, mais je pense qu'on doit dire que c'est un point sensible, délicat, quant au type évangélique de théologie. Nous n'avons pas très bien résolu cette difficulté-là. En général, elle a été résolue par des scissions. Ceux qui pensaient que la confession de foi n'était pas conforme à la parole de Dieu, ils essayaient de dire, se sont fait exclure ou se sont séparés. Nouvelle dénomination. Comme ça s'est passé en général. Et on ne peut pas dire que ce soit très satisfaisant du point de vue biblique. Vous voyez, voilà ce que j'évoque sous cette expression norme normée.
Vous n'avez pas un appel de la parole de la Bible. Donc plus on a dit c'est inhérence.
Oui, oui,
la
mais.
La confession est inhérente.
Non, la confession n'est pas inhérente. Non, inhérent, cela veut dire infaillible, mais c'est un terme plus précis encore qu'infaillible. Infaillible devrait suffire, normalement. Mais
du fait que certains l'ont utilisé d'une manière bizarre, trop laxiste, vous voyez, le mot d'inhérence a été introduit aussi dans le vocabulaire courant. Et les théologiens. Sens de l'autorité, vigilance à l'égard des propositions extérieures, c'est ce que je voudrais relever comme caractéristique de la mentalité évangélique. Je me rattache. Je crois que c'est très sensible pour les gens qui nous regardent à l'extérieur. L'idée de l'autorité. Par quelle autorité fais-tu ces choses? Quelle est l'autorité? Cela compte beaucoup. C'est une question de premier rang pour nous. Elle est beaucoup moins pour des gens d'autres types de chrétiens. Je crois que c'est biblique. Je pense que ce sens de l'autorité, il apparaît dans la Bible elle-même. Nous sommes là à redire pas d'autre. Mais ça mérite d'être relevé au passage. Cette question de l'autorité. Tout à fait typique qu'un homme comme Martin Lloyd-Jones, qui a été, je crois, cité l'autre jour, qui a été une très grande figure du mouvement évangélique britannique, dans les décennies d'après-guerre, les années d'après-guerre, et qui a été un des hommes qui ont soutenu le mouvement des GBU, dans son essor, a écrit un petit livre, largement diffusé, sous le titre « Enfant l'été ». Enfant l'été, autorité. Oui, j'ai roulé un petit peu mon air à la manière galloise. J'étais galloise en fait. Vigilance à l'égard des propositions extérieures, ça aussi. Alors là, c'est plutôt mon expérience de plus en plus vive. Ce qui, avec ma sensibilité évangélique, en quelque sorte m'étonne toujours à nouveau et me méduse parfois chez mes collègues, qui ne sont pas donc la même. Bien sûr, c'est leur crédulité, leur conformisme, ça s'appelle leur ouverture, à l'égard des propositions extérieures. Quelque chose est à la mode, ce dernier qui a parlé, le dernier livre qui a paru, ben, voilà, on accepte ça, comme ça, tout le monde croit comme ça, bon, alors autrement que de croire aussi comme ça. Je réagis comme évangélique, vraiment très très fort. Pas pour autant, et tout de suite à éprouver ces pensées, ces esprits, tout de suite à les éprouver. Attends. Mais je remarque une sorte de vulnérabilité, d'ouverture d'accueil comme automatique aux propositions extérieures. Et alors, il me semble typique, tout évangélique de dire, attention, non, peut-être même à l'excès, mais non, il y a toujours l'envers des qualités. Une proposition extérieure, pour l'examiner avant d'admettre. Je crois que ça compte pour beaucoup des différences concrètes entre évangéliques et ceux qui se désireraient par d'autres étiquettes.
Je pense qu'il est délicat de citer les écharpes.
Oui, oui, tout le monde. Tout le monde le sait. Vous rendez compte à quelle vitesse là, autour de la pendule. Certains d'entre vous avez de prêts à prendre. Donc. Alors, sous-jacent, comme il y a une compréhension profonde du salut qui est sous-jacente au modèle catholique, je crois qu'il y a une compréhension du salut qui est là, à la base du type évangélique, compréhension juridico-personnaliste et historique du salut. Le salut qui n'est pas un processus dont la technique et l'énergie nous seraient communiquées par l'Église, mais un événement qui est accompli dans l'histoire, l'annonce comme la bonne nouvelle, ce sont le fruit et recueilli, sans aucune œuvre que l'homme devrait ajouter, une compréhension historique du salut. C'est un évangile. Juridico-personnaliste, d'où par l'accent sur la loi, la condamnation, la justification de langage juridique judiciaire. Et d'autre part, parce qu'on ne s'oppose pas du tout, c'est au contraire la forme de relation personnelle. Non pas tant le problème de l'être et de la participation à l'être, comme dans la grande tradition catholique, mais le rapport d'alliance, Seigneur, vassal, père, fils, fille, ce sont là les catégories clés pour le modèle évangélique. On pourrait dire l'alliance de l'objectivité, l'accent sur l'objectivité de l'œuvre du Christ pour
spécificité, de l'importance de la réponse. Une expérience personnelle de nouvelle naissance, de sanctification. Il me semble que le type évangélique se caractérise par la corrélation de ces deux accents. Avec, alors, l'occasion dans cette corrélation même de diversité. Certains versent peut-être trop du côté de l'objectivité, d'autres trop du côté de la subjectivité. Et des controverses qui ne sont pas résolues sur divers points, sur la liberté, tendance augustinienne, luthéro-calviniste, de Luther personnellement, pas du luthéranisme, mais de Luther, de Calvin, de beaucoup d'autres, mettant l'accent sur la souveraineté de Dieu, et tout dépend de lui, et puis l'accent d'autres, qui est l'héritage de Wesley, mettant l'accent sur la responsabilité de l'homme et une décision humaine qui semble indépendante de la détermination par Dieu. Là, il y a un conflit qui divise à certains égards, malgré leur collaboration, des évangéliques. Sur l'Église, alors, l'Église de type institution, du terreau réformé, ou l'Église de professants, avec des conséquences pour le baptême, problème d'interprétation plus ou moins littérale, question du rapport au monde, action sociale ou non, comme une mission principale de l'Église. Vous avez là des éléments de pluralité tendue, et c'est trop facile de dire c'est une bonne diversité, c'est la diversité même du vivant, pour certains points peut-être, mais pas pour d'autres. D'autres, il s'agit de savoir quelle est la vérité, hein, quand c'est de l'écriture. Et nous sommes peut-être trop lents à chercher encore, à progresser vers cette vérité. Voilà quelques traits à souligner du modèle évangélique. Alors, il va parler du type libéral moderniste. En fait, nous avons parlé, tout est appliqué, des débats qui ont déjà été mis en cause. Le type émerge vraiment, comme je l'ai dit, au XVIIIe siècle. Mais là aussi, il y a des précurseurs. Donc, chez Origène, je pense qu'on peut dire qu'il y a des germes de ce troisième type de théologie. Non seulement sur l'universalisme, dont nous avons parlé, ça peut être une de la protestase, mais aussi, par exemple, sur sa manière allégorique de traiter le texte, qui fait que la vérité historique, il n'en nie pas, mais elle est dévaluée. Elle est nettement dévaluée de beaucoup de textes bibliques. Et sur certains moments, il est quand même ambigu, retient-il vraiment la vérité historique. Un penseur isolé, très isolé, de tendance panthéiste au IXe siècle, après le temps de Charlemagne, le temps de Charles le Chauve, Scott Erigen. Au début du XIIIe siècle, Joachim de Flore, avec son idée des trois âges et l'âge de l'esprit comme âge libertaire, qui secoue le joug du dogme et des institutions. Et puis alors, plus important encore, parce que vraiment chez eux, le type libéral-moderniste de théologie déjà se dessine fort bien, les Sociniens du XVIIe siècle. À l'époque de la Réforme, il y a eu une famille de théologiens italiens d'origine, Socini. Alors on a latinisé le nom, Socinius. Ont introduit une version spiritualiste, antidogmatique, de christianisme, rationaliste, si vous voulez, éliminant beaucoup des dogmes. Et c'est surtout en Pologne qu'ils ont eu une postérité spirituelle. Mais ils ont critiqué beaucoup des dogmes de l'orthodoxie, bien anciennes que de la réforme même, avec la plupart des arguments que les libéraux par la suite ont repris. Ils sont vraiment des ancêtres spirituels. Très reconnaissable, les libéraux. Au XVIIe siècle, quelques hommes, et Spinoza, un très grand philosophe rationaliste, je ne sais pas, qui est une adaptation selon les canons de la raison critique, de l'humanisme triomphant de l'époque, une adaptation du message chrétien. Adaptation essentiellement réductrice par soustraction, soustrayante, si vous voulez. On pourrait dire que la Genèse de style catholique a impliqué l'addition à la Bible. La Bible a été préservée, mais des tas de choses venues du paganisme se sont rajoutées, et la Bible s'est trouvée comme sophie sous plusieurs couches de traditions étrangères se sont rajoutées. Au contraire, la procédure du christianisme libéral a été une procédure de soustraction. La raison critique de l'homme moderne a fonctionné comme un lit de Procuste. Vous savez, Procuste, il torturait d'un lit trop court, il mettait ses ennemis sur ce lit, puis il trouvait s'il dépassait. La raison moderne est un lit de Procuste pour la vérité biblique. Ce qui est incompatible avec ce que l'homme moderne peut recevoir, on l'élimine et on garde un noyau qui, en général, est un noyau plutôt d'éthique, de morale, d'idéal, de fraternité humaine, etc. Alors, les grands systèmes libéraux, c'est au 19e qu'ils se déploient, avec deux noms principalement, avec bien sûr des noms très nombreux qu'on aurait pu mentionner, Schleiermacher et Richard. Schleiermacher, Frédéric Daniel, Schleiermacher, sans doute le plus grand des théologiens libéraux, peut-être un homme supérieurement doué, et qui est très cultivé, il traduit Platon, il avait une finesse, une grande éloquence aussi, c'est un prédicateur qui faisait courir les foules à Berlin. Schleiermacher avait eu dans son enfance une marque piétiste, et il se définissait lui-même comme un frère moral de classe supérieure, intellectuellement. Un piétiste, si vous voulez, rationaliste, libéral, enfin non, rationaliste, c'est pas le terme correct, parce qu'on pourrait dire irrationaliste aussi bien, qui était dans du romantisme, au début du 19e siècle, qui était donc très fortement influencé par les thèmes romantiques. De la vie, du caillissement irrationnel. La raison garde son rôle un petit peu critique, un rôle plutôt négatif, d'élimination, mais le positif, alors, est dans le caillissement irrationnel de la vie, et de la personnalité géniale. Alors, poursuivant dans le sens de l'insistance piétiste sur le sujet et son expérience, dans le sens de la référence de l'Église, Schleiermacher définit l'essence de la religion, et finalement aussi du christianisme, comme l'expérience subjective. C'est la conscience de Dieu, le sentiment de dépendance à son égard, qui est le cœur de la religion. Non plus une vérité objective sur un Dieu qui se sur mais l'expérience du sujet croyant. Et son livre exposant en quelque sorte sa doctrine, parce que lui aussi, c'est paradoxal, tout en dévaluant la doctrine, expose sa doctrine, c'est la doctrine de la foi, mais la foi au sens subjectif. Il s'agit de décrire la foi du sujet, non pas un objet de foi, mais la foi comme expérience, comme vécu du sujet. C'est ça l'objet de la théologie chrétienne, c'est l'expérience du sujet. La religion, c'est ce sentiment de dépendance, ce n'est pas un savoir, ce n'est pas un faire. Voilà ce qu'il souligne, en éliminant, mais de cette façon, radicalement, ils sont tous réinterprétés. Dans tous les dogmes reçus de la tradition chrétienne et de la Bible. Et le traitement ultra critique de la Bible elle-même. Schleiermacher est le père du libéralisme dans la première partie du 19e siècle. Albrecht Ritschl, lui, a forgé un autre type, très intéressant et influent lui aussi. Il était, lui, sous l'influence, avec un relais d'ailleurs, mais sous l'influence du philosophe Kant. il pourrait être aussi mentionné comme un penseur du libéralisme. Lui aussi avait été élevé pietiste. Et il a cru sauver le christianisme au siècle des Lumières, quand il a écrit un livre intitulé « La religion dans les bornes de la simple raison ». Propose en quelque sorte son interprétation du christianisme. Dans les morts de la simple raison, je lis le corpus. C'est très très clair. Il réduit à ce que la raison critique peut admettre. Alors, Richel est un théologien venu, pas tout à fait un siècle après, monsieur du 19e en gros, qui adopte une philosophie kantienne et qui forme une théologie. À partir de là, dont le point principal, sans doute, serait l'opposition entre les jugements de fait et les jugements de valeur. Qui correspond à la scission kantienne entre le savoir et le croire. Ceux qui ont fait de la philo, vous connaissez cette scission chez Kant. Et chez Richard, c'est très clair. Les jugements de fait, physique, historique, métaphysique, mais ça n'intéresse absolument pas la foi. À partir d'un autre plan. La foi est relative au jugement de valeur. Jésus et Dieu, non pas dans un sens métaphysique, serait préexistant comme un être céleste, tout ça, mais un fait admissible. Il est Dieu parce que la valeur de Dieu pour nous, comme le modèle éthique, polarise. C'est dans ce sens qu'on peut dire encore la confession de foi, Jésus fils de Dieu, dans ce sens, le jugement de valeur et non pas de fait. Et cette théologie christienne a eu une très grande influence dans l'impérialisme. Et elle a continué de marquer même ceux qui ont réagi contre le libéralisme au XXe siècle. Ils sont marqués. Tout qui sait, les grands systèmes libéraux, Jacques, Maurer, Richel. Alors, le fidéisme, en effet, consiste à détacher la foi des faits, la foi d'une appréhension rationnelle des faits. C'est, nous sommes parfois dans la foi prenant pour référence elle-même. Alors, dans le prolongement de Schleiermacher et de Richel, il y a eu une école de théologie libérale particulièrement importante pour la protestantisme français, l'école symbolo-fidéiste, à la fin du XIXe siècle, puis ce mot de fidéisme. Mais le libéralisme, qui adoptait les grandes valeurs de l'humanisme courant, l'humanisme bourgeois de l'époque, avec des éléments socialisants rajoutés, je pense qu'on peut le décrire de cette façon, royaume de Dieu, fraternité humaine, solidarité, voilà les valeurs qui subsistaient cette réduction de l'évangile. Le libéralisme, donc, christianisme, non pas entièrement rejeté mais approprié, ce libéralisme s'est essoufflé, manifestement a perdu de sa vigueur, de sa sève au début du siècle. Et la Première Guerre mondiale, qui a été un traumatisme épouvantable pour l'optimisme de l'humanisme occidental, les nations les plus civilisées du monde, celles qui avaient produit les penseurs les plus nobles, les grands maîtres, Kant, Hegel, ce que nous venons de mentionner, les Français, d'autres encore, se sont fait triper sans merci des millions de morts. La Première Guerre mondiale a vraiment secoué les mentalités communes de façon épouvantable. Et alors après cette Deuxième Guerre mondiale, un mouvement qui prenait le contre-pied de beaucoup de thèses libérales a pris son essor. Donc il y a eu des commencements même déjà avant la guerre, mais disons que ça a pris vraiment en 1919. Un mouvement qui s'est d'abord appelé, ou qu'on a d'abord appelé la théologie de la crise. La crise. crise de toute la psyché occidentale, non de la culture occidentale, la crise du jugement de Dieu, et contre l'optimisme des libéraux, donc leurs anciens élèves, qui avaient commencé même comme théologiens libéraux dans leur jeunesse, ont pris le contre-pied en disant Dieu de tout autre, toute réalité humaine sous le jugement de Dieu, celui qui a tonné avec le but de puissance à son propos, paru d'abord comme une sorte de prophète, d'Élie foudroyant, les gars de ce libéralisme qu'il avait pourtant appris dans sa jeunesse, c'est Karl Barth. Karl Barth, jeune Suisse à l'époque, qui a dit exercer les centres militaires d'Allemagne. Elle est tout autre, elle, de la différence qualitative infinie entre le temps et l'éternité, même du jugement de Dieu du non, sous lequel se trouve placée toute réalité finie. La théologie de la crise, là, ça n'a pas été seul, mais il a été suivi par d'autres, d'abord en Allemagne dans les années 20, pour ensuite se gagner progressivement d'autres régions. Et on a pu croire donc comme équivalent d'un retour à la réforme, parce que refusant les inspirations dominantes du libéralisme, critiquant Schleiermacher en particulier, Barth et ses collègues, assez vite, pas tout de suite, mais assez vite, il faut revenir aux réformateurs, revenir à l'autorité de l'écriture. L'écriture, parole de Dieu. Et certains ont pu croire que, effectivement, ce mouvement rompait avec le libéralisme moderniste, correspondait à une nouvelle orthodoxie, surtout quand Barth, d'abord, avait dit qu'il se contentait de mettre une note marginale à tout ce que la théologie avait dit jusqu'alors, c'était comment un éveilleur s'est mis à produire une théologie dogmatique lui-même et des professeurs, engagé dans la rédaction du dogmatique, où sa pensée a évolué, plus en plus il a vu la nécessité de produire quelque chose d'ample et de faire dans des chimies. Alors, il s'est engagé dans la rédaction du dogmatique, et puis il a vu sa pensée changer trop vite, il a recommencé au début des années 30. Alors on a parlé là vraiment de néo-orthodoxie. Dogmatique, ecclésiale, dogmatique. Et son évolution l'a amené à dire qu'il faut tout concentrer en Jésus. Tous les rapports entre Dieu et l'humanité passent par Jésus-Christ. C'est lui qui est la parole de Dieu. C'est dans l'événement de Jésus-Christ que tout est enfermé. Concentration psychologique. Concentration, sa dogmatique. Il a fini par atteindre 10 000 pages. Au grand format avec beaucoup de petits caractères et qui est assez inachevé quand même, sa dogmatique et la mise en œuvre de cette volonté de concentration christologique. Pourtant, je place le mouvement Barthien d'abord avec théologie de la crise, puis théologie dialectique, par certains néo-orthodoxies, mais pas tellement en Allemagne. Je place ce mouvement sous le titre général de la jeunesse du type libéral moderniste. Parce que, avec une multitude de paradoxes d'ailleurs, Barth, tout en prenant le contre-pied de beaucoup de thèses libérales, n'a pas entièrement rompu avec le modèle libéral, et il n'est pas revenu, il a refusé très explicitement au modèle évangélique, sans ce que nous avons défini. Il a dit, comme très expressément, et ça s'est vu sur plusieurs points, entre autres celui de l'inhérence, la parole de Dieu. Barth a dit à la fois la vie de la parole de Dieu, a prêché l'autorité de Dieu, et il a dit qu'elle n'est pas la parole de Dieu au sens d'une identité permanente. Elle est la parole de Dieu au sens qu'elle l'a été et qu'elle le devient quand il s'est attiré de produire cet événement. En elle-même, c'est une parole humaine, rien qu'une parole humaine.
Mais Dieu produit un événement qui dépend de sa seule libre grâce, quand il veut, c'est dans un instant, et on ne peut rien étreindre, c'est mal. Se produit un événement de coïncidence entre parole de Dieu et texte biblique, mais qui aussitôt est révoqué, de telle sorte qu'on se souvient que cet événement a eu lieu, qu'on peut espérer qu'il se reproduise, qu'on peut prier pour qu'il se reproduise. C'est dans ce sens qu'est les paroles de Dieu, mais pas dans le sens des réformateurs, où c'est une qualité permanente qui lui vient de l'inspiration de ses auteurs. Et ça veut dire qu'en elle-même, elle est pleine d'erreurs. Des erreurs abondent, des contradictions entre les évangiles synoptiques, des erreurs même théologiques. Et qu'elle devienne parole de Dieu avec toutes ces erreurs, mais c'est le miracle. Les aveugles voient, les muets parlent, les boîtes marchent. La forme contredit le contenu. Voilà ces expressions. Dans l'événement de la révélation, où elle devient parole de Dieu, cela veut dire en pratique que la critique biblique est libérale, elle continue. Parce que le texte qu'on a devant Dieu, quand on a un tas de travail, on fait une critique biblique, c'est un texte simplement humain qui comporte des erreurs. Et donc, on n'a pas brisé. Et la ligne ne suffit pas sur cette critique. Il faut aller au-delà dans ses objets théologiques. Mais il a quand même toujours laissé la place, sa légitimité à la critique de type libéral, qui trie dans l'écriture, qui trouve ceci comme erreur, cela comme admissible. Ça, c'est clair. Et sa confrontation psychologique l'a amené à changer le sens de pratiquement tous les points du dogme qu'il a repris. Il a fait un effort colossal pour réassumer toute la tradition de la réforme et de même de l'Église de catholique et tout, et en réinterprétant tout. Et ça conduit très près, en particulier, de l'universalisme. Le monde entier est tout très souvent justifié, sanctifié, sans le savoir, en Christ. C'est ce qui est fait. La foi fait simplement la différence de la conscience qu'on en a. Et donc de la liberté qu'on a dans le monde, c'est fait. Bon, en même temps, il y a donc des fois, juste au dernier moment, mais les pasteurs ne l'ont pas suivi dans cette prudence, refusaient de dire purement et simplement tout le monde sera sauvé. Tout en disant, je ne sauterai pas si mal quand même. Donc il n'est pas revenu à un modèle évangélique. Et je crois que pour cette raison, son œuvre a été affectée d'une instabilité à la base qui a limité son efficacité historique. Barth a été le numéro 1 pour la théologie protestante dans les années 30 et 40, qui en France, qui est un pays très barthien, France et Fissonnande, ça a continué jusqu'au début des années 60, mais l'âge barthien est passé. Puis ce sont de nouveaux libéralismes qui l'ont emporté, plus raffinés, souvent plus philosophiques encore que les précédents, mais qui reviennent à des positions qui ne sont pas si éloignées de celles de Richel ou de Fermat, de leur disciple. D'ailleurs, ce sont là sont l'objet d'études, d'un honneur académique assez marqué ces dernières années. La vague martienne a tout à fait reflué. Ça a commencé en Allemagne dès la fin des années 40, début 50. Parce que dans le dialogue avec le principal des néolibéraux de ce temps-là, Bultzmann, qui se lançait dans la démythologisation systématique du Nouveau Testament, y compris la résurrection, dans ce dialogue, Marc et les Barthiens ont pris le dessous. Ils ne pouvaient pas, sur les bases qui étaient les leurs, vraiment répondre aux arguments des Bultzmanniens. Et puis, ça a gagné finalement les autres pays. Et depuis, il y a donc plutôt prédominance d'une sorte de néolibéralisme. Alors, je n'ai pas le temps de vous exposer leur diversité. Ce que je voudrais souligner simplement correspond au point C, deuxièmement, sur le très saillant. La multitude des degrés nécessite du discernement sémantique. Conclurai par là pour que nous achevions réellement la diversité de données. Il ne faudrait pas que l'appellation mon juge libéral-moderniste vous trompe. Il n'y a pas à mettre tout le monde dans le même sac. C'est-à-dire que
Le libéralisme, au sens que je vous ai employé le terme, correspond à une réduction de la plénitude du message chrétien biblique. Je suis persuadé, toujours. C'est toujours le dit propus, si vous voulez. On supprime quelque chose. On trie, on élimine un élément de la vérité biblique. Mais certains conservent 98%, et chez d'autres, il ne reste plus que 34%. Il y a vraiment toute la gamme. Il y a des gens qui sont libéralisants, semi-libéraux, si vous voulez, mais que ça ne fait pas. Et il faut que vous ayez conscience de cette diversité, de toute la gamme des positions, pour ceux qui ne retiennent presque plus rien de ce que croyons être, vraiment le message biblique, et d'autres qui sont assez loin. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, nécessité du discernement sémantique, concerne un avertissement à tout lecteur de ces auteurs. Ils emploient, c'est leur réponse souvent, le langage de la Bible, le langage de la tradition. On pourrait dire que leur talent consiste à aligner de langage biblique des conceptions qui pourront paraître acceptables à l'homme moderne adhérent de telle ou telle philosophie contemporaine. La génosité d'un théologien, ce par quoi il se prend un nom, c'est de réussir en étant par exemple heideggerien ou un disciple d'Ernst Bloch sur bien des points, à reprendre le message biblique et à le dire en croyant ces termes d'une manière qui corresponde à ces œuvres de mentalité contemporaine. Alors, il ne faut pas prendre dans le sens évangélique le langage qu'il emploie. Il ne faut pas croire que quand on prend une formule biblique, c'est dans le sens que nous trouvons dans la Bible. À cette expression, pas forcément. Le discernement sémantique, le discernement quant au sens de la sémantique, c'est la branche linguistique qui s'intéresse au sens. Les mots changent de sens quand ils sont employés par les théologiens libéraux. Alors là aussi, tous les degrés, hein, mais il faut être averti à ce propos. Je rencontre très souvent des braves évangéliques qui ne se sont pas du tout rendus compte, ils n'ont plus peur, en lisant un auteur libéral, ils n'ont pas du tout vu à quoi ils en venaient réellement. Et naïvement, comme ils étaient de langage de la Bible, ils ont pris ça dans un sens évangélique souvent. Bon, ça leur a fait normal. Mais disons que je crois qu'il faut appeler au discernement à ce propos. Ce qui doit être responsable en affaire. Voilà, alors, le temps nous manque pour aller plus loin, mais je suis.